Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous aurez sans doute compris que je suis assez attaché, pour pas dire farouchement accroché, à mon identité bretonne. Même si le folklore, le biniou et les fêtes traditionnelles me laissent assez froid, j'en demeure pas moins extrêmement fier et excessivement pénible lorsqu'on évoque ma région et ma culture. Il suffit d'avoir une seule fois prononcé le mot galette devant moi pour s'en rendre compte. Tout ça pour dire que cet attachement à mon Finistère natal, je le dois évidemment à la très longue lignée de Bretons dans laquelle je m'inscris. Lignée que, par ailleurs, je n'ai jamais eu la tentation de remonter plus que ça. Pourtant, c'est très très à la mode, surtout depuis que la généalogie à l'ancienne a été supplantée par les tests ADN récréatifs, ces kits vendus par des entreprises américaines pour la plupart, qui proposent, moyennant finance, de vous livrer une cartographie de vos ancêtres sous forme de pourcentage. Ça peut paraître gentiment inoffensif, mais ça ne l'est pas tant que ça. D'une part parce que confier ces données génétiques à des boîtes privées, ça n'est pas sans risque, et d'autre part parce que derrière, ce business florissant joue à fond sur l'obsession identitaire assez peu réjouissante qui caractérise notre époque et dont on va sonder à notre façon les ressorts avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Peut-être que vous ou l'un de vos proches a déjà fait ou réfléchi à faire un de ces fameux tests ADN commerciaux que j'évoquais plus tôt. Il faut savoir que si ces entreprises qui les vendent sont basées hors de France, c'est parce que la pratique n'est pas légale chez nous. Enfin, pas encore, puisqu'elle pourrait être autorisée en partie si elle est incluse dans le projet de loi bioéthique qui est attendu cet été. De toute façon, avant de choisir à quelle entreprise on confiera le soin de disséquer notre ADN, il faut d'abord se décider à se lancer. Car la démarche soulève des tas de questions. Cette phase de doute, c'est celle que traverse en ce moment Fanny, une amie d'amis que je suis allé voir pour qu'elle me raconte comment elle s'était retrouvée sur le point de franchir le pas.
En fait, ça m'a mis la puce à l'oreille après que je me sois rendu compte par divers recoupements que peut-être, j'avais des origines espagnoles. Sachant que c'est rationnellement assez improbable puisque je viens de familles d'agriculteurs ancrées dans le nord de la France qui ont a priori peu bougé dans leur vie si on remonte à plusieurs générations. En fait, moi, plusieurs fois, on m'a demandé si j'étais espagnole. Il y a plusieurs personnes dans ma vie qui sont arrivées vers moi pour me parler en espagnol en pensant que j'étais espagnole. Et ce qui m'a vraiment donc mis la puce à l'oreille, c'est une fois mon grand-père maternel m'a dit que quand il était petit, son instituteur lui avait dit « Toi, avec ta tignasse et tes cheveux noirs, t'as forcément des origines espagnoles. Ouais. » Ça, donc, dans le Nord, sachant que le Nord a été sous domination espagnole, par les Flandres, donc là je parle d'il y a très très longtemps, vers le 15e, 16e siècle. Et en fait, quand mon grand-père maternel m'a dit ça, ça m'a frappé et j'ai fait le lien avec les plusieurs fois où on m'a demandé si j'étais espagnole ou on m'a parlé en espagnol directement. Comme je disais, c'est peu probable puisque je viens de famille agricole, à l'exception en fait de mon grand-père maternel, qui lui, en fait, son père était maçon, donc dans le sens où il a peut-être un peu plus bougé, en tout cas qu'il a une vie moins sédentaire que mes ancêtres agricoles. Et depuis, c'est devenu un petit peu une blague avec plusieurs copains où je revendique des origines espagnoles qui sont très, très hypothétiques. Mais à la fois, moi, ça me plaît bien l'idée d'avoir des origines espagnoles là où, a priori, je viens 100% du Nord. Mais j'ai envie un peu de fantasmer mes origines. Et c'est à la fois pour la blague, mais c'est aussi parce que je suis curieuse de ça, quoi. J'ai ressorti une énième fois cette blague de mes origines espagnoles supposées à des copains qui ont carrément, du coup, lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir faire ce fameux test ADN des origines pour en finir, comme ils disent, pour en finir avec cette blague. Voilà, donc c'est comme ça que c'est revenu récemment là, sur le tapis. Sachant que j'avais déjà lu quelques trucs là-dessus, mais sans aller vraiment très très loin encore. Mais voilà, là, c'est pas du tout dit que je le fasse, parce que voilà, il y a d'autres questions qui se posent derrière. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est uniquement la question des origines. Voilà, j'ai pas envie de savoir si je vais avoir un cancer dans 30 ans. Et puis il y a cette question aussi des données qu'on vend. Du coup, à des opérateurs privés, comment ils vont les exploiter, ce qu'ils vont en faire, et ce que ça implique aussi pour ma descendance à moi. Voilà.
Est-ce que quelque part, une part de toi a peur d'avoir une réponse négative, a peur de découvrir que t'es pas espagnol, que t'as pas du tout de sang espagnol, et que ça casserait du coup un petit peu le fantasme un peu de cette identité que toi sur laquelle tu t'es construite ces dernières années.
Oui, sans doute un petit peu, parce que aussi je pourrais plus faire cette blague puisque ce serait scientifiquement avéré. Si toutefois c'est scientifiquement robuste, ces analyses pourcentage d'origine là. J'ai envie de savoir, mais jusqu'où je suis prête à aller pour le savoir, c'est surtout ça la question aussi. Je pourrais toujours continuer à faire ma blague, ça agacera mes copains, mais tant pis pour eux, c'est tout.
Est-ce que tu as commencé à regarder un peu quels étaient justement les opérateurs disponibles sur le marché, quelle était la démarche à faire, ce qu'il fallait faire, où est-ce que ça partait potentiellement ces données-là?
Très, très superficiellement pour l'instant, j'ai lu quelques articles, j'ai vu quelques opérateurs qui le faisaient, essentiellement, voire exclusivement, j'ai l'impression, aux États-Unis. J'ai pas encore pris le temps de lire toutes les petites lignes des conditions générales de vente, j'allais dire, si c'est comme ça que ça s'appelle aussi, et de savoir justement déjà si tu peux cocher uniquement l'info origine, puisque moi c'est uniquement ça qui m'intéresse. J'ai pas du tout envie d'avoir des infos santé ou autre chose qui pourrait décrypter de mon génome. Après, je sais que concrètement, tu reçois un kit chez toi où tu dois prélever de la salive. Ça a un coût, forcément, y compris des frais d'envoi, mais aussi du décryptage, j'imagine. Après, voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai lu aussi quelques témoignages de personnes qui l'ont fait. J'en suis là pour l'instant et c'est pas du tout dit que je le fasse pour une fois.
Qu'est-ce qui pourrait être le frein, la limite, qu'est-ce qui serait rédhibitoire dans ta découverte de des pratiques autour de ce décryptage du génome? Qu'est-ce qui pourrait te faire dire que je vais pas le faire, je vais définitivement pas le faire?
C'est clairement la question est des données, jusqu'où elles vont. Alors clairement, c'est une pratique qui est interdite en France, en Europe, je ne sais pas, en tout cas en France. Là où il me semble qu'en France, sur ces questions un peu d'éthique, on est plutôt bien protégé sur le devenir de nos données. Là, clairement, c'est très nébuleux. Et ça, j'aimerais bien avoir un peu toutes les infos, toutes les cartes en main pour me décider. Sachant que jusqu'à présent, les infos que j'ai collectées sont pas forcément hyper engageantes justement sur la protection de mes données, quoi.
Tu parles espagnol, toi ?
Un poquito.
L'assimilation, c'est pas encore ça.
Claro que si.
C'est
Cette exploration de l'ADN et les questions tant éthiques que politiques qu'elle soulève, Élise Thiébaut se les est posées. Elle est journaliste, autrice, on la connaît surtout pour ses travaux sur les règles. Son prochain livre s'appelle « Mes ancêtres les Gauloises », il sortira aux éditions de La Découverte début septembre, et il démarre justement par la découverte du business des gènes. J'ai demandé à Élise comment elle s'était retrouvée à plonger là-dedans.
Au tout départ, j'avais beaucoup d'interrogations sur le grand bastringue identitaire qui revient en Europe, en France, et le renvoi qui est fait aux personnes racisées notamment, de se conformer à une norme identitaire française, à un modèle supposément français, à un standard supposément français. Et il se trouve que moi, je corresponds au fameux standard identitaire français, et que par ailleurs, j'ai la conviction que ce standard, que l'idée qu'il y ait des standards auxquels on doit se conformer en tant qu'être humain, est totalement contraire à ce que je considère être l'humanité. Et mon humanité, puisque si on fait des standards et qu'on s'y conforme pas vraiment, on va créer des hiérarchies.
Oui.
Et si on crée des hiérarchies, je suis pas d'accord. Alors, interroger par ailleurs mon identité au regard de ce que je suis comme norme, ça a été... j'avais besoin d'un certain nombre d'outils, de méthodologie, et je me suis dit, tiens, ces tests qui existent partout, il y en a aujourd'hui... il y a 17 millions de personnes qui ont effectué ces tests ADN d'ancestralité. Tout le monde reçoit ça maintenant pour l'anniversaire, pour Noël, etc.
C'est devenu un vrai marché.
C'est devenu un énorme marché. Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière ce marché. Mais quand j'ai commencé à le faire, moi, au tout départ, c'était ça. C'était de me dire, tiens, à titre un peu performatif, comment on décrit l'identité dans ces termes-là de fast-food de la génétique. Qu'est-ce qu'on va me dire de moi et en quoi ça correspond ou ne correspond pas à ce que je sais de moi, ce que je sais de l'histoire de ma famille, de mon pays, et qu'est-ce que je peux en faire ? À partir de là, je dois dire que ça a été un peu une espèce de vortex qui m'a aspirée, parce que ça va beaucoup plus loin au tout départ, pour être très franche. Je me disais, je vais faire ce test, ça va me prendre un petit chapitre pour dire que c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Enfin, voilà, que c'est un peu... parce que c'est vraiment du fast-food.
C'est très léger.
Ouais. Et bon, évidemment, est-ce qu'une identité peut se réduire à des pourcentages ? Je pensais qu'il suffirait d'un paragraphe pour répondre non.
De fait, non. C'est les deux premiers chapitres du
livre. De fait, c'est les trois premiers chapitres, parce qu'après, je vais encore plus loin, avec puisque mon frère a aussi fait son test ADN, et donc on a comparé, et tout ça nous a amené encore dans d'autres explorations. Et surtout, ce que j'ai compris en me penchant sur... Premièrement, le marché des tests récréatifs, c'est que ça s'inscrit dans une logique de l'identité et de la génétique mondialisée qui a des implications, des dimensions éthiques, politiques, économiques très importantes. Hein, qu'est-ce que ça signifie que les ADN soient collectés de cette manière-là, qu'ils soient conservés, qu'ils soient utilisés à des fins que nous ne connaissons pas par des sociétés privées créé à l'initiative des cofondateurs de Google. Bon, et puis, ce qu'on découvre en premier lieu, par exemple, c'est qu'il y a une ambition scientifique de comprendre l'histoire de l'humanité, de comprendre le fonctionnement d'un certain nombre de maladies, et ça, les gènes nous permettent vraiment de le savoir, mais que pour pouvoir arriver scientifiquement à ça, il fallait avoir beaucoup de gènes.
Oui.
Et qu'en fait, c'est un système de collecte de gènes autofinancé par les gens qui font réaliser leurs tests.
C'est de la collecte de données
à énorme échelle pour un bénéfice qui ne revient qu'aux sociétés les mettent en œuvre.
Comment ça fonctionne très concrètement, très basiquement, ces fameux tests ADN récréatifs, c'est ça ?
Alors, il n'y a rien de plus simple. On reçoit un kit de prélèvement ADN qui varie selon les entreprises. Celui que moi j'ai fait, on prélève ça on prélève un peu de salive dans la bouche avec un petit bâtonnet. Il y en a d'autres qui demandent qu'on crache dans un petit dans une petite éprouvette. Et puis ensuite, on le renvoie. Il faut environ 8 à 10 semaines pour avoir un résultat, généralement sur Internet.
Qui ressemble à quoi, alors, du coup, ce résultat ?
Alors, le résultat, ça ressemble, pour être extrêmement franche, ça ressemble à un horoscope annuel. Donc, on nous dit plusieurs choses. On nous dit à quel haplogroupe, donc groupe de population, sur des milliers d'années, ça peut aller jusqu'à 50 000 ans. Hein. J'appartiendrai, voilà, cet haplogroupe. Alors, ce que ça signifie, moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'on se dit, tiens, j'appartiens à la grande tribu de ceci, cela ? Oui. Ben non. En fait, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une petite marque génétique qu'on va trouver dans l'ADN MT, qui est une partie de l'ADN qui représente lui-même qu'un tout petit pourcentage des 30 000 gènes qui me constituent, génétiquement du moins. Donc c'est vraiment un tout petit truc qui se retrouve là et qu'on peut identifier et ramener à cette filiation-là. Ensuite, il y a une analyse qui essaye de voir sur les 500 années quels sont les pourcentages de population qu'on retrouve. Donc, dans mon cas, alors on se retrouve avec des pourcentages un peu bizarres, mais donc moi j'avais, je crois, 53% de Méditerranéens, pour moitié Italiens, Sardes, et pour moitié Espagnols, et puis 44% d'Anglo-Saxons, par exemple. En fait, quand on creuse un peu, on regarde, et quand on discute avec les généticiens, ils vous disent que c'est grosso modo ce qu'on appelle le profil génétique de la France, hein, qui est pour moitié. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions
sur... c'est justement une des leçons, ou en tout cas, c'est une des conclusions, en l'occurrence, de ce que vous retenez de cette expérience, c'est que ça n'a pas vraiment de sens, tout ça, cette quête d'identité génétique, elle est finalement, tout peut être vrai comme tout peut être faux, c'est-à-dire que ça n'a finalement aucun sens scientifique même.
Ça a été la surprise que j'ai éprouvée, parce que je me disais, bon, j'étais évidemment relativement dubitative sur le fait de remettre de la génétique dans le bastringue identitaire. Et de ce point de vue-là, j'ai malheureusement pas été tellement déçue. Évidemment, l'idée qu'il y a des tests génétiques permettant de certifier des origines, beaucoup de gens s'en sont saisis parce que, comment dire, l'interrogation sur les origines, elle est profondément humaine et moi, je la juge pas. Elle fait partie de notre psychisme, on s'imagine tous être des enfants abandonnés, avoir des filiations. Tous les romans familiaux sont fondés sur des histoires plus ou moins rocambolesques.
Puis tout le monde s'est déjà posé la question de savoir qui il est, tout simplement.
Et puis oui, c'est légitime de se poser la question, c'est légitime aussi d'essayer de savoir à quel peuple on se rattache, à quelle histoire, tout ça, ça fait partie des les interrogations elles-mêmes, elles sont légitimes et elles expliquent aussi le succès extraordinaire de cette quête identitaire avant. Et en plus, les Français en sont particulièrement dingues. Hein. Bref, en tout cas, il ne s'agit pas tellement d'interroger ou de juger l'interrogation sur l'identité. Par contre, évidemment, il y a des gens qui s'en saisissent pour prouver leur caractère. Les suprémacistes blancs se sont jetés sur ces tests pour dire, voilà, je suis 100% blanc, il n'y a pas de bruit génétique qui me rattacherait à des peuples noirs, descendants d'esclaves, etc. Alors évidemment, c'est pas tellement encourageant qu'on en arrive à cette situation où moi, je ne vois pas ça avec beaucoup de tranquillité, qu'on en arrive à vouloir démontrer de qui et de quoi on descend. Enfin, je dis un peu, est-ce que après ce qu'a fait le nazisme à l'Europe, on va pouvoir se dire, oh, chouette, la génétique, je me balade dans mes gènes comme un petit chien qui s'égaye dans le jardin. Non, franchement, il faut quand même qu'on ait une certaine... des interrogations éthiques sur ce qu'on fait de ça. Et de ce point de vue-là, les réponses ne sont pas très bonnes. Y compris des grands généticiens professent des convictions racistes. Et c'est très troublant parce que comme ils sont au début, on se dit ce sont des scientifiques, la science est neutre, elle n'est pas politique. Maintenant, ce n'est pas vrai. En l'occurrence, on a des généticiens qui pensent avoir fait la démonstration que le racisme est une erreur. Hein. C'est Kaveli Sforza qui dit ça. Il dit le racisme est une erreur.
Oui.
Et puis, il y a Watson qui dit « Moi qui suis généticien, je pense pouvoir prouver qu'il y a une infériorité génétique chez les personnes noires. » Enfin, je veux dire, il y a un truc de surréaliste. Vous êtes à 44% anglo-saxon. Ça veut dire quoi ? J'aime le thé. Voilà, tous les gens disent « Oh, je savais pourquoi j'aimais la paella. » C'est parce que j'ai... Sincèrement,
ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Mmh. Mais se demander qui on est en tant qu'espèce, quels sont nos rapports avec les autres, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, qu'on se reconnaît, y compris qu'est-ce que ça signifie, et ça c'est la deuxième partie de mon livre, mais où on se sent français, pas français, que nous disent nos histoires et nos romans familiaux. Est-ce que et c'est intéressant de se le raconter, c'est intéressant de s'interroger là-dessus et de voir aussi en quoi ça correspond ou non. Et c'est intéressant, et on devrait poser davantage la question aux gens qui le font, c'est que ça ne correspond jamais à ce qu'on s'imaginait. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vérité, c'est nous qui l'avons.
Oui.
Et que se raconter nos histoires dans leur singularité, c'est le seul antidote à un roman national qui veut faire de nous des standards. Nous ne correspondons pas à des standards pour une raison très simple. Nous sommes des individus et des êtres humains et pas des objets manufacturés.
Mmh.
Et le grand reproche que je ferais à ces tests génétiques, c'est qu'en fait, ils considèrent l'être humain comme un objet manufacturé. Ça, c'est vraiment grave.
Et qui a une composition comme on lirait la composition de l'étiquette d'un vêtement avec 30% de coton et 50% de lin. Derrière tout ça, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours interrogé, c'est l'emballage de ces tests, c'est-à-dire la façon dont ils sont présentés au monde extérieur. Il y a eu énormément de vidéos, énormément de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux notamment, ça a eu beaucoup de succès, des choses à la fois dans les médias et des choses plus commerciales directement, où on déploie une ambition très pacifique, pacifiste, de dire « Regardez, grâce à ces tests, on va enfin avoir la preuve scientifique, pour le coup, que nous sommes tous frères, que nous sommes tous égaux, parce que finalement, on est tous issus de mélanges et tout ça. Regardez cette vidéo avec ce grand leader raciste qui découvre qu'il a 10% de sang afro-américain. » Voilà, qui sont des choses qu'on a pu beaucoup voir. Mais derrière cette apparente bienveillance et cette apparente volonté de pacifier les relations entre les gens, il y a à la fois une démarche commerciale, on l'a dit, mais il y a quand même une démarche identitaire, un ressort identitaire qui est extrêmement fort. Moi, c'est toujours ça qui m'a interrogé. Il y a une vraie contradiction dans tout ça.
Oui, il y a une contradiction que j'appelle le paradoxe de Hollywood. Plus la réalité derrière est complexe et terrible, voilà comment se construit la première grande puissance du monde aux États-Unis, eh bien voilà, la colonisation, on détruit le peuple qui vivait là, autochtone, devenu par la suite amérindien. Et ensuite, on vole ces terres, on les exploite en faisant venir des esclaves qu'on ne paye pas. Franchement, en quelques siècles, c'est facile de devenir la plus grande puissance du monde. Et comme ça, on ne peut pas le dire comme c'est, hein, et ben on fait Hollywood. Et Hollywood qui vous explique, qui vous fait des films de western, qui fait rêver... d'un monde parfait qui vend la démocratie américaine comme la démocratie la plus avancée, le peuple le plus avancé du monde. Et donc le paradoxe d'Hollywood, et ça c'est du marketing, hein, la société repose sur du marketing. Alors on vous explique qu'on va faire des recherches génétiques en vous disant ça vous permet de découvrir que vous êtes tous frères. Mais sincèrement, si on est tous frères, est-ce qu'on a besoin d'une preuve génétique de ça ? Est-ce qu'on a besoin d'une preuve scientifique que nous sommes tous frères et toutes sœurs ? Non. En vérité, parce que ça, c'est des questions politiques.
Et l'un des enseignements importants de Mes ancêtres les Gauloises, le livre d'Élise Thiébaud, c'est la nécessité de s'interroger au-delà de notre profil génétique sur la vision extrêmement standardisée, rigide des identités qui prévaut encore aujourd'hui et que ces tests grand public ne font finalement que conforter tout en prétendant faire l'inverse. Merci à Fanny et Élise Thiébaud pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.